Wesh HTP.
Salut.
HTP Radio, c'est le printemps.
C'est le printemps, pose-toi, t'as le temps.
C'est le printemps, Haute-Pierre.
Écoute HTP Radio. Prends le temps, c'est le printemps.
HTP Création.
Vas-y, c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller,
c'est chelou, hein.
T'as capté le délire?
Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer c'est quoi la démarche d'un politiste?
Bien sûr, donc je suis Vincent Lebroux, enseignant-chercheur en sciences politiques. Je suis plus particulièrement maître de conférence en sciences politiques à l'université de Franche-Comté, à Besançon, et chercheur associé au laboratoire SAGE de l'université de Strasbourg. Et donc, le travail du chercheur en sciences politiques consiste à essayer d'éclairer la place de la politique dans le fonctionnement de la société, c'est-à-dire à essayer de comprendre sur quelle base les rapports sociaux se construisent et sont organisés, notamment par le pouvoir. Donc une question qui est particulièrement d'actualité dans cette période où l'État régule plus strictement encore que d'habitude nos déplacements et nos relations sociales.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
À demain. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de dépolitisation des choses que notamment John Clark a pu mettre en évidence pour aider aussi nos éditeurs à un peu mieux cerner l'idée?
Et alors, le concept de dépolitisation, donc évidemment, il fait l'objet de nombreux débats en sciences politiques, hein, donc, et de définitions un peu différentes. Mais pour résumer, hein, le travail de le processus de dépolitisation, il consiste pour l'essentiel à retirer la politique des choses. Hein, il consiste à retirer la politique des débats publics, du fonctionnement des relations sociales et de tout ce qui régit au quotidien le fonctionnement de la société. Donc c'est ce risque-là, en fait, hein, que l'individualisation de cette gestion de la pandémie en insistant sur le dévouement des soignants contribue à reléguer au second plan toute cette dimension politique de ce qui se passe actuellement.
Ok, je vais bien soigner mes patients, mais avant, faut que je parle à la direction. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok. L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Bonjour professeur Hartmann.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux. Vous faites partie donc de ces 1000 signataires médecins, chefs de service ou de structure hospitalière prêts à démissionner de vos fonctions administratives, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, professeur ?
Concrètement, démissionner de ses fonctions administratives, ça veut dire que on gérera les services collectivement, on continuera à soigner les gens, bien sûr. Et ça, on le fera toujours de manière collective en équipe, mais on ne répondra plus, on ne sera plus en lien avec l'administration, en particulier sur les thèmes de produire toujours plus d'activités, nos bilans financiers, ces thèmes dont on ne supporte plus d'entendre parler.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
Mais vous savez, depuis 10 ans, on subit l'ambiance de l'hôpital entreprise, c'est-à-dire qu'on nous a demandé, nous on prodiguait des soins, on s'est mis à nous demander de produire du séjour, de produire de plus en plus de séjours pour rapporter de l'argent à l'hôpital. Et c'est un jeu de dupes parce que la Sécurité sociale a un budget fermé, donc elle n'a pas pu suivre. Donc on nous a supprimé au fur et à mesure de plus en plus de moyens. Et les conditions de travail des personnels en particulier sont devenues très difficiles. Et on a perdu beaucoup, beaucoup d'infirmières. Moi, dans mon service, il y a 4 ans, toute mon équipe est partie.
Comme l'ont justement analysé les chercheurs en sociologie Pierre-André Juvin, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, à propos des réformes de l'hôpital public français. Une véritable casse de ce service public est engagée par des réformateurs adeptes de l'acculturation de l'univers médical à des logiques managériales qui contredisent son bon fonctionnement. À l'encontre de toute évidence, les défenseurs d'une réorganisation du travail continuent de promouvoir à la fois des indicateurs de rentabilité ineptes et une vision techniciste de la médecine qui prétend substituer l'innovation aux relations humaines.
L'hôpital, c'est mon inquiétude depuis mon arrivée dans ce ministère. Je sais que l'hôpital a vécu 20 ans de paupérisation. J'ai l'année dernière réussi à avoir pour la première fois depuis 10 ans des budgets en hausse pour l'hôpital. D'abord un dégel complet des budgets mis en réserve en début d'année, une campagne tarifaire en hausse, la première depuis 10 ans, et je me suis engagée à ce que la campagne tarifaire de cette année soit au moins aussi bonne. Mais il y a clairement une crise de l'investissement dans le quotidien des soignants. Il y a aussi des problématiques de rémunération, notamment pour les professionnels paramédicaux, mais aussi pour les professionnels médicaux en début de carrière. Donc il y a un problème d'attractivité. Et puis il y a un problème de vision. Qu'est-ce qu'on veut pour l'hôpital public ?
Un hôpital, surtout public, est par nature un lieu sous pression. Mais lorsque cette pression monte sans arrêt, la situation devient dangereuse. Depuis 10 ans, et particulièrement depuis 2015, protestations et cris d'alarme se multiplient, émanant non seulement des infirmières, des aides-soignantes, des cadres, des brancardiers, des praticiens hospitaliers, y compris des élites médicales, mais aussi des directions hospitalières, elle-même fatiguée d'être prise entre le marteau des agences régionales de santé, autrement dit l'État, et l'enclume professionnelle et syndicale, autrement dit les soignants.
Manifestation des urgentistes à Strasbourg, les réponses apportées par la ministre de la Santé Agnès Buzyn face à la détresse des personnels sont jugées largement insuffisantes. Parmi leurs revendications, plus de lits dans les services de soins pour désengorger les urgences.
Il va y avoir des personnes qui vont rester sur un brancard 24, 30, 35, 48 heures par moment en attendant d'avoir un lit dans le service duquel ils dépendent, on va dire.
Si l'hôpital a été jadis un lieu d'accueil et de soins, nous verrons qu'est en cours de fabrication et de légitimation un hôpital virtuellement sans accueil, consacré aux seuls soins techniques et hyper spécialisés. En somme, un techno-hôpital, où le numérique et l'innovation sont les valeurs cardinales, c'est-à-dire les plus importantes, où le travail de quart et de suivi des patients est délégué, privatisé et externalisé aux portes de l'hôpital.
Aujourd'hui, on est sur une crise qui, effectivement, a une origine qui est nationale, parce que fermer des lits, c'est très facile. Vous fermez des lits du jour au lendemain. Par contre, une fois que vous avez décidé de les rouvrir, il faut aller embaucher les médecins, il va falloir embaucher le personnel soignant, et vous voyez que c'est bien plus difficile. Donc aujourd'hui, le mouvement est basé, un, sur la réouverture des lits, et puis sur la prise en compte de la pénibilité du travail. Ayez en tête que par année, parfois c'est 80% du personnel soignant qui se renouvelle. Dans quelle entreprise ou dans quelle administration, si 80% du personnel venait à partir d'une année sur l'autre, on ne se poserait pas la question sur la pénibilité du travail qui a lieu. Et je ne parle pas de la souffrance des patients. Donc vous voyez que le problème, il est structurel. Et tant qu'on n'y aura pas apporté des réponses structurelles, on continuera à vivre hiver après hiver la même situation. Donc s'il n'y a pas de lit de créer, s'il n'y a pas de lit de rouvert, on pourra passer cette grève-là, mais je vous parie que dans 6 mois, la chose reviendra, puisque le problème n'aura pas été traité.
Plus de lits, plus de personnel et plus de rémunération, les 100 euros de prime annoncés par la ministre ne suffiront pas, disent-ils, à attirer de nouvelles recrues.
Les nouveaux diplômés ou les personnes même qui sont diplômées depuis plus longtemps qui arrivent aux urgences, elles font très rarement un parcours sur plusieurs années. Régulièrement, on a des personnes qui restent que quelques mois ou un an et demi, avant d'être réellement dégoûté des urgences et de finir par partir.
Ce matin, ils étaient donc une trentaine à manifester à Strasbourg. Une journée d'action nationale est d'ores et déjà annoncée pour le 2 juillet.
Nous avons débloqué 750 millions d'euros cet été pour la crise des urgences, pour recruter du personnel, pour réouvrir des lits, pour organiser différemment les soins urgents. Mais nous allons continuer pour rendre plus attractif l'hôpital public. Mon objectif, c'est un hôpital public qui occupe la place qu'il doit occuper dans notre système de santé. Il est aimé des Français. Les Français comptent sur l'hôpital public et l'hôpital public peut compter sur moi.
C'est parce qu'on a été de déception en déception avec Agnès Buzyn. On avait un a priori favorable. Elle venait du Sérail. C'est quelqu'un qui venait de l'hôpital public. On a été extrêmement déçus. Et à la fin, on s'est aperçu, et à demi-mot, elle l'a dit ou elle l'a fait dire, écoutez, moi, j'ai déjà la reprise de la dette que j'ai obtenue. Je ne pourrais pas aller plus loin. Et donc, en gros, elle a dit taper au-dessus, quoi. Elle ne l'a pas dit, puisqu'en fait, elle jouait ce rôle à la fois de fusible, de bonne élève, et c'est ça le drame, c'est qu'on sait très bien que les cabinets ministériels sont des cabinets de bons élèves qui sont là pour jouer le rôle de fusible, le cas échéant, et surtout éviter que le monarque soit atteint par la boue, finalement, d'un mouvement comme celui-là.
Alors que la montée de la précarité et des souffrances sociales nées de décennies de politique néolibérale conduit une part croissante de la population à trouver refuge dans des services hospitaliers sous tension, l'hôpital se trouve devoir résister aussi bien au manquement de la médecine de ville qu'à la concurrence de cliniques privées largement dispensées des obligations de service public.
Aujourd'hui, on est sur des grèves ponctuelles, effectivement, mais le personnel n'écarte pas la possibilité, parce qu'il y a le même mouvement à Paris, il y a le même mouvement à Lyon, il y a le mouvement à Mulhouse qui est parti, à Angers, dans d'autres villes, et ça prend une ampleur nationale. Et l'hypothèse d'une grève illimitée, aujourd'hui, n'est pas écartée aux urgences des US, et une grève illimitée qui porterait peut-être sur une grève des admissions, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de lit. Nous, on continue à traiter nos patients. Par contre, ceux qui sont en charge de l'administration de l'hôpital, eh ben, à elles et à eux de trouver des lits pour ces patients. Et en alertant l'opinion publique, parce que le jour où quelque chose arrivera, parce que quelque chose va arriver, ou en tout cas peut arriver, il va falloir dire aussi que le personnel soignant aura alerté. Merci.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus.
Donc cet enjeu sanitaire, il me semble qu'il renvoie en grande partie aux décisions politiques et gouvernementales visant à limiter les conséquences de la pandémie, mais aussi aux décisions prises par les États concernant leur politique de santé.
Ouais.
Et sur ce point en particulier, on a pu noter certains effets désastreux, hein, les difficultés à faire face aux afflux soudains de malades, le manque de matériel, le tri des malades également en fonction de l'âge. Hein,
une sorte de ségrégation.
Une sorte de ségrégation.
Si on hiérarchise les personnes, quoi.
Ouais, on s'est rendu compte, en fait, que dans une situation de tension un peu extrême, telle que celle qu'on rencontre actuellement, bah, notre système de santé avait été réformé jusqu'à un point qui fait qu'on n'est plus forcément en mesure d'accueillir tout le monde. Et donc, même si ça n'a pas été dit très fort, il semblerait qu'on a été contraint d'opérer une forme de tri des malades en fonction de l'âge, notamment. Hein, les personnes les plus fragiles et les plus âgées étant considérées aussi souvent comme des personnes plus difficiles à soigner et à sauver de ce virus.
Plus nous agirons ensemble, et vite, plus nous surmonterons cette épreuve. Plus nous agirons en citoyens, plus nous ferons preuve de la même force d'âme, de la même abnégation patriote que démontrent aujourd'hui nos personnels soignants, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Plus vite, nous sortirons de cette vie au ralenti.
Enfin, c'est quand même extraordinaire, je pense, qu'un président de la République fasse appel à la bonne volonté sans cesse renouvelée de personnels soignants, en espérant qu'il suffit de les renarcissiser, de leur dire à quel point ils sont merveilleux pour que ça fonctionne. Il faut être quand même très, 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 très loin de la réalité pour faire ça. Donc ça, c'est une chose. On est président de la République, on n'est pas forcément dans la réalité. La vraie question, c'est quel est le discours qui lui est tenu par ses conseillers.
Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences.
Quand tu vois que déjà dans le quotidien, donc du avant, certaines populations étaient, d'ailleurs souvent les mêmes, étaient déjà défiées par rapport à un système établi. Donc on peut parler des personnes des quartiers ou alors également des personnes sans domicile fixe. On se rend compte aussi que là, dans le cadre de ce confinement, on n'a pas tous non plus les mêmes droits et les mêmes privilèges.
Enfin, la situation sanitaire actuelle a plutôt pour effet de réactiver hein, ces inégalités sociales et économiques qui structurent depuis plusieurs décennies maintenant le fonctionnement collectif. Et on voit bien que c'est dans ces quartiers-là aussi que les quartiers des contrôles sont plus importants, que y a des cas, alors je ne les ai pas recensés, hein, je n'ai pas fait attention à tout, mais on a des cas où il y a des jeunes de ces quartiers qui partaient travailler, qui ont été l'objet de contrôles policiers parfois violents et inutiles, et donc ça on se rend bien compte hein, que la situation actuelle prolonge voire renforce un certain nombre d'inégalités et d'effets de stigmatisation dont souffrent ces quartiers depuis longtemps. Le rythme sous sa route, plus de doute, le passé assassin fait partie des gens qu'on écoute. Qui sont les criminels, qui sont ceux qu'on enferme à l'école. On nous impose des modèles, mais la vie nous révèle le côté réel des fous depuis qu'ils nous gouvernent. Pas un mot sur les crimes, quand ils assassinent, on te prime. Si ça ne va pas, on te supprime. Bon, voilà comment la police s'exprime. Personne d'entre nous ne veut finir comme Marie Kousekin. Bing bang, la police est comme un gang de la victoire au Maghreb. Notre sang vient de la même sève. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de trêve. Je vote pas, la politique institutionnelle ne m'intéresse pas. Je rappe pour les bafons, pas pour les bouffons. Non, je ne mets pas à vendre, mais pour le tien, j'ai le plan. Sur des critères bien définis, 80% des prisonniers sont ouvriers, chômeurs ou sans logis. Combien de keufs sont incarcérés? Dites-moi simplement dans l'histoire, le nombre de politiques est déjà condamné. Christophe Mathieu, Mohamed Diable, le petit Thibault sont tombés sous les balles. Les porcs qui ont tiré sont bien au champ. Et nous, on nous reproche de semer la panique, atteinte à la sûreté de l'État quand la crise s'excite. La jeunesse n'a pas besoin d'assassin pour voir que l'État non était toutes ces conneries, mais de l'envie de shooter un ministre. Zing, zoom, zam, le underground s'exprime. Pendant que jour après jour, l'État assassine.
L'État assassine, un exemple.
Tous les retours que j'ai d'amis habitants à Haute-Pierre, le confinement, il se passe plutôt tranquillement. Chacun joue le jeu parce qu'effectivement, la question derrière, c'est cet aspect sanitaire. Il y a une solidarité aussi qui est assez importante pour aider notamment les générations vieillissantes. Il y a une manière aussi de pouvoir se responsabiliser, mais ensemble. Et finalement, ce qui est mis en avant dans le sens média, c'est presque tout l'opposé, quoi.
Oui, parce que c'est certainement dans ces quartiers que les réseaux de solidarité se sont mis en place le plus rapidement. Mm-hmm. Et c'est un point extrêmement positif qu'il faudra avoir en tête pour l'avenir. C'est-à-dire que c'est aussi dans des situations difficiles qu'on tisse des liens et qu'on arrive à mettre en place les solidarités du quotidien. Mm. Je pense que les quartiers populaires, comme Pierre et d'autres, continuent dans la crise actuelle de bâtir une forme de réputation ancrée dans l'imaginaire collectif et qui consiste à voir dans les habitants de ces quartiers des personnes qui sont forcément indisciplinées, peu soucieuses du bien collectif et des enjeux de solidarité. Alors on sait évidemment que c'est pas le cas et que c'est aussi dans ces quartiers-là qu'on imagine des choses nouvelles et différentes. Mmh.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « Nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « Toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils n'avaient pas faite, et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Mais je crois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Oh, il ne se passe jamais plus rien.
Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre, et des sages pour ne rien faire.
Comment et en quoi, du coup, nous, citoyens, aurions notre mot à dire? Et comment, à ton avis, il serait possible de résister à ce système qui génère lui-même cette dépolitisation?
C'est évidemment un des grands enjeux et une des semaines à venir. Il ne faut pas oublier de rappeler que les mesures gouvernementales de restriction des libertés de circulation et de regroupement ont mis aussi fin à des mois de mobilisation contre des réformes qui touchent des points importants de la société. Et donc pendant des mois, les manifestations se sont multipliées, notamment contre la réforme des retraites, mais aussi contre le manque de moyens à l'hôpital, justement. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 3 mois, des revendications du personnel hospitalier violentées par la cour n'est pas entendues. Les vidéos, des vidéos ont été beaucoup circulées ces dernières semaines pour rappeler un peu ce paradoxe, cette absurdité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le personnel soignant qui est valorisé par le pouvoir politique, il était aussi fortement martyrisé par ce même pouvoir. Et aujourd'hui, comme par miracle, le gouvernement se dit sensible au sort du personnel soignant. Donc, il faudra évidemment voir sur la longueur ce que ça veut dire et évidemment pas oublier de se mobiliser, de continuer à soutenir le personnel soignant dans ses mobilisations, y compris quand les applaudissements de 20h auront pris fin.
Playback.
HTP Radio, c'est fini.
Choose.
Tu peux nous retrouver sur htpradio.org.
Gurushuruse.
Allez, ciao HTP.
Salut.
À plus dans le bus.